givré, agrippé à son arme. Œuf de sang congelé dans un cristal de lave. Elle danse la neige dans la nuit de Noël, autour d'un temps brûlé qu'elle a pris pour chapelle. La neige tout de suite moissonne, tout de suite hécatombe. Oh, la neige, regarde la neige qui tombe.
Nous sommes des fous, vous et nous, nous sommes très doux.
Attention, les voilà.
Bienvenue sur Micro-ondes 94, l'émission des syndicats de la CNT du Val-de-Marne.
Le gouvernement a le devoir de maintenir la paix publique et de protéger tous les citoyens sans exception contre les excès et la subversion.
Les provocations de quelques agitateurs professionnels.
Si les CRS n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu d'émeute. Ils seraient partis ce matin au petit jour manger leur café au lait.
Grandes idées n'ont pas en vain combattu et le péril contre les richards et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris. Nous lancerons la vengeance puissante et nous serons à tout jamais victorieux. Aux frères, aux armes pour notre lutte.
Radio Libertaire, 89.4, La Voix sans maître. Vous écoutez l'émission Micro-ondes 94, l'émission de la CNT du Val-de-Marne. Au programme d'aujourd'hui, d'abord un conflit social d'été. Déjà que les conflits sociaux sont rares, alors en été encore plus, au SAMU social. Ensuite, nous évoquerons les commémorations de la Révolution espagnole, de la libération de Paris, etc. Et nous finirons par un petit programme d'activités à venir pour les syndicats du Val-de-Marne. Mais d'abord, on commencera par un peu de musique.
Du mal à quitter Morphée, fallait justifier la paye que mon patron peut s'octroyer. Ça n'est pas vraiment que je tienne à continuer de l'engraisser, mais aussi petite soit la mienne de paye, j'en ai besoin pour bouffer. Je fais des trous dans ma ceinture, un par jour pour mieux gérer le minimum que cette enflure se croit obligée de me céder. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirige et qui nous gouverne. Je le croise devant l'usine, dans sa belle BMW, dans sa Porsche ou bien son Alpine, suivant ce qui l'a motivé. Moi je garde mon vélo depuis qu'ils ont décidé, afin de relancer le marché de l'auto, d'interdire aux poubelles de rouler. Il a les fringues toujours impec, les mains propres et jamais tachées. Moi mes paluches je bosse avec, et mes neurones sont élimés. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirige et qui nous gouverne. Il a des potes en politique, des plantes grasses à arroser, de celles qui jamais ne lui piqueront le cœur de son chéquier. Ils ont le cumul sympathique de maire et de député, ils ont la morale cathodique et le chômage suranné. Peu importe l'ascenseur qu'ils aiment à se renvoyer, peu importe puisque l'erreur c'est qu'on est trop dans l'escalier. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent.
Un petit truc qui permettra à Christophe de rebondir après sur le SAMU social. C'est quelque chose que j'ai vu cet été, un truc qui m'est arrivé. En fait, le 2 juillet, vous allez comprendre pourquoi la date est importante. Le 2 juillet, j'étais sur le site de la PHP à Paris, enfin non, Val-de-Marne, parce que je devais prendre un rendez-vous pour faire des radios, enfin des trucs médicaux. Et en fait, donc, j'arrive sur le site de la PHP, je crois que c'était Henri Mondor de mémoire, ou Chenevier. Et je vois, première page, un petit encadré avec écrit « Faites un don à l'hôpital ». Ah bon, je ne savais pas qu'en France, il fallait faire des dons aux hôpitaux. Il me semblait que tous les impôts qu'on payait, c'était justement pour éviter tout ça. Et alors, pourquoi le 2 juillet ? Bah, je vous expliquais pourquoi. C'est qu'en fait, bah, deux jours après, le 4 juillet, je regarde les actus, et j'apprends que notre grand chef à nous, Manu Macron, a décidé, pour fêter les 250 ans de l'indépendance américaine, de faire passer deux rafales au-dessus de l'ambassade américaine. Allez savoir pourquoi. Il avait envie, il y a un autre à foutre.
Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. D'un côté, on me demande du pognon, puis de l'autre, en fait, on éclate du pognon pour des conneries, quoi. Et donc, je me suis un petit peu renseigné, j'ai fait quelques recherches, et j'ai retrouvé l'estimation par heure de vol pour un Rafale. Alors, pour l'exploitation de l'avion, déjà, il y en a pour 20 000 euros. Pour le personnel de maintenance et de soutien. Alors, il n'y a pas de chiffre officiel, hein, c'est juste un ordre de grandeur. C'est bien sûr, tout ce qui est militaire, on le cache bien, sinon c'est pas marrant. Donc, pour le personnel de maintenance et de soutien, il y en a pour 5 000 à 10 000 euros. Pour l'infrastructure, c'est-à-dire base aérienne, hangar, énergie, sécurité, amortissement, il y en a pour de 3 000 à 8 000 euros. Pour le commandement du contrôle aérien, logistique, administration, 2 000 à 7 000 euros. Alors, le total estimé, c'est entre 30 à 45 000 euros par heure de vol. Mais il faut aussi inclure l'amortissement de l'avion. C'est-à-dire, bah, faut les former, les nos petits piou-piou qui sont en l'air, là, qui s'amusent bien. Donc, faut les simulateurs de formation, faut les pièces, faut les investissements industriels, faut aussi la comptabilité. Donc, en tout, bah, en tout, c'est de 40 000 à 60 000 euros par heure de vol. Donc, moi, je me suis dit, bon, allez, un Rafale, le temps qu'il décolle et qu'il atterrisse, allez, on va être sympa avec eux, on va dire qu'il y en a pour une heure de vol. Donc, en fait, cette petite connerie, ça nous a coûté, parce que c'est nous, hein, c'est notre pognon, hein, ça nous a coûté 120 000 euros en tout. 120 000 euros, je pense que pour les hôpitaux, ça aurait été le bienvenu, ça aurait peut-être évité que de faire une demande de pognon pour les hôpitaux, quoi, pour qu'on puisse se soigner. Puis il y a aussi le 14 juillet, hein, qui est très très sympa. En fait, là, il y a des chiffres un peu plus officiels. Le défilé, alors ça, c'est pour 2024. Hein. Donc, le défilé militaire, en 2024, il nous a coûté de 3,5 à 5 millions d'euros. Et la sécurité globale, c'est-à-dire que bah, les militaires, les policiers, les chevaux et compagnie, ça nous a coûté de 2 à 4 millions. Donc bon, on va être sympa, on va prendre les chiffres les plus hauts. Donc, 2024, ça nous a coûté 9 millions d'euros. Mais cette année, Manu... Il avait envie de faire la teuf parce qu'en fait, bah, c'est son dernier 14 juillet, donc bah, faut faire ça bien, quoi. Donc on peut, je pense qu'on peut doubler facile. Hein. Donc bah, ça nous a coûté, bon, allez, 17 à 18 millions d'euros, plus les 60 000, plus les 80 000 boules pour les 2 heures de vol des deux Rafales. Je pense que cet argent-là, il aurait pu être utilisé bah, pour les hôpitaux ou éventuellement pour le SAMU social, comme bah, vous expliquait Christophe.
Ben oui, Christophe, c'est quoi le SAMU social ?
Eh ben oui, je pense que tout le monde ne connaît pas forcément le SAMU social. Donc, il y a eu un conflit. Alors, merci pour la transition de David. Il me semble que sur une des banderoles, il y avait marqué « Il y a de l'argent pour les Rafales et pas pour le social ». En gros, le SAMU social, ça existe depuis 1993 sur Paris. Et c'est un dispositif d'assistance aux personnes sans abri. Donc, l'institution, elle a pas mal grossi. Et donc, du coup, elle est essentiellement connue pour les maraudes, comme sa création. Et après, pour un numéro dédié aux personnes sans abri ou pour les particuliers qui souhaitent signaler des personnes en rue, qui est devenu le 115. Après, il y a plein d'autres services. C'est une grosse structure. Du coup, ce qui a amené le conflit estival, c'est qui, l'État a décidé de remettre à la rue 1200 personnes. Donc, l'hébergement d'urgence, c'est une prérogative de l'État. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes-là, c'est des personnes qui avaient été mises à l'abri pendant la période hivernale, pendant ce qu'on appelle un plan grand froid. Donc, depuis cet hiver, c'est la personne qui, sans cesse, avait leur hébergement renouvelé. Donc, la plupart des personnes étaient hébergées en hôtel. C'était des familles avec des enfants qui avaient des démarches administratives, du travail, pas mal de choses entamées. Et en gros, du jour au lendemain, l'État a décidé, alors qu'on arrivait en période estivale, qu'il fallait remettre ces personnes en rue. Et ça s'est pas très bien passé. Du coup, les écoutants, surtout des écoutants d'ailleurs, du 115, ont appris qu'elles devaient faire des appels sortants, c'est-à-dire rappeler les familles pour leur dire bah, « votre prise en charge va s'arrêter ». Alors, les travailleuses et les travailleurs du 115 s'y sont opposés dans un premier temps, et on leur a répondu que si elles ne faisaient pas cette mission, qu'on allait devoir envoyer des SMS aux familles, que ça allait être plus violent, que ce serait de leur faute. Donc c'est un peu ce qui a tout déclenché. Donc le conflit, en gros, il s'est organisé de la façon suivante. Il y a eu une assemblée générale organisée par la CGT, qui est le syndicat majoritaire au service social de Paris. Cette assemblée générale a décidé d'une grève, et pour le coup, une grève reconductible, ce qui n'avait jamais eu lieu au SAMU social. Donc la grève a débuté le 23 juin, et elle a duré quasiment 2 mois.
Et main d'or. Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant.
Je voudrais travailler encore,
forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Travailler encore,
acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré, là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir.
Travailler encore,
acier.
Radio Libertaire. Vous écoutez l'émission Micro-ondes 94, l'émission de la CNT du Val-de-Marne. Et on était sur le SAMU social. SAMU social qui a quel statut et combien de salariés ça concerne ?
Ouais. Effectivement, je n'ai pas précisé. Donc le SAMU social de Paris, c'est un peu différent des autres SAMU sociaux. C'est un groupement d'intérêt public. Et du coup, c'est dans son statut, il est rattaché à la fonction publique de l'État. Comme je disais, ça a un peu plus de 30 ans et c'est une structure qui a bien grossi. On est plus ou moins entre 800 et 1000 équivalents temps plein. Donc du coup, la plupart des salariés, ce sont des contractuels de la fonction publique. Il y a une partie qui sont du personnel mis à disposition par les membres du GIP, qui sont diverses et variées, qui est la RATP, la SNCF, la mairie de Paris, etc. Et il y a quand même une grosse partie, c'est des agents vacataires. Donc du coup, c'est une sorte de main-d'œuvre low cost jetable, en fait, qui est pas mal utilisée dans la fonction publique. Est-ce que ça répond à tes questions sur le...
Alors, moi, j'ai une question, Christophe. Pourquoi l'État, en fait, il veut plus donner de pognon ? C'est quoi qui justifie ? C'est le coût des rafales, c'est quoi ?
Peut-être. Pour le coup, je n'ai pas de réponse claire à apporter sur ça, mais en fin de compte, quand la décision est prise de remettre les personnes en rue... C'est que justement, l'État dit, bah voilà, vous avez dépassé le budget qu'on a alloué aux nuitées hôtelières et on ne remettra pas de sous. Donc la décision qui est prise, elle est prise par le SAMU social de Paris, par la direction. C'est pas finalement un organisme militant. Peut-être que justement, c'est parce que c'est la fonction publique de l'État. Peut-être justement la caution morale de l'État. Donc le SAMU social décide de restreindre les conditions d'accès à l'hébergement d'urgence, en plus d'envisager de remettre les personnes en rue qui ont été hébergées pendant la période grand froid. Grosso modo, il y a des critères de priorité qui sont instaurés par le SAMU social. Donc en fin de compte, pour être critère de priorisation numéro 1, c'est-à-dire avoir l'espoir d'avoir un hébergement quand vous appelez, on demande à ce que ce soit par exemple des personnes enceintes de 7 mois à la base, ce qui est déjà ultra violent. Et là, en fait, on envisage de passer à 8. On envisage de durcir ces critères-là. Alors qu'il y a un truc quand même qui est inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles. On en reviendra peut-être après sur les négociations qu'il y a eu. C'est que normalement, il y a la conditionnalité de l'hébergement d'urgence et la continuité, en fait. Et du coup, si on ne peut pas y accéder et qu'on jette les personnes, on ne respecte pas ces critères-là. Donc en fait, ces décisions-là qui ont été prises et dans la possibilité de discuter, en fait, en essayant de faire culpabiliser des salariés, ce fait qu'il y a une assemblée générale, du coup, qui a été faite à l'initiative de la CGT. On se retrouve avec différents salariés de l'institution, de différents services. Alors on s'aperçoit assez rapidement que c'est un peu la merde partout. Et globalement, c'est là où ça brûle le plus, c'est au 115 par rapport aux décisions récentes. Donc ce qui est décidé par l'Assemblée Générale, c'est de faire un préavis de grève. Donc du coup, c'est la fonction publique, il faut faire un préavis, il y a des délais à respecter. Donc c'est pas la première grève du SAMU social de Paris. On pourrait même dire qu'on commence à être habitué. En revanche, c'est la première fois où on part sur un truc reconductible. Donc la décision est prise et la grève commence le 23 juin. Donc à partir de ce jour-là, il y a des assemblées générales de grévistes qui ont lieu quotidiennement, qui décident de la poursuite de la grève, et puis des négociations commencent avec la direction. Donc la position de la direction, elle est assez claire. En fait, elle y croit pas à ce mouvement de grève. Elle pense que les salariés, ils vont pas réussir à tenir longtemps, et met en avant qu'ils sont pas très nombreux, donc elle commence à donner des chiffres.
Alors, Christophe, petite question. Quand tu dis grève, c'est-à-dire vous arrêtez de prendre des appels téléphoniques, vous arrêtez d'aller sur le terrain, c'est quoi la grève
pour vous ? Une partie des salariés se met en grève, donc du coup, ils n'occupent plus leur poste de travail. Okay. Donc, effectivement, et sur le 115, on a un taux de décroché qui baisse forcément. Après, il y a une communication. Hein. Les familles, on va le voir après, qui appellent, comprennent en fait plus ou moins les raisons. Donc là, on se retrouve au départ. Du coup, ça communique sur des chiffres de grève et c'est une façon de minimiser l'action des grévistes. Et au bout d'un moment, ça ne tient plus parce que la grève devient vraiment crédible, même aux yeux de la direction. Et là, on se rend compte que le jour où ils ne veulent plus donner les chiffres, en fait. Et là, il y a eu des appels. Et le mouvement qui commence avec une cinquantaine de personnes, il s'élargit avec des temps forts. Alors, il y a une vraie organisation. Hein. Bon, moi, je travaille au SAMU social. Pour le coup, j'étais un peu dubitatif sur l'ambition de cette grève, une grève reconductible. Et puis, la question, justement, de la rémunération qui se pose pendant le mouvement de grève. Et puis, bah, on décide de créer une caisse de grève, alors qu'il y a pas mal de gens qui ne se connaissent pas. Et je me dis, bon, ça va être compliqué. Et du coup, bah, cette caisse de grève, elle a existé dès le départ. Elle a été alimentée. Elle l'est toujours. Et elle permet de garantir d'avoir le moins de pertes possible pour les agents qui ont été grévistes. Donc du coup, c'était impensable au début et ça l'est devenu. Il y a une vraie lutte qui s'est menée et plutôt pas mal. Donc la direction commence à se rendre compte que la grève a un poids. Pour autant, elle lâche rien. On est en période de vacances. Très vite, elle se dit que ça va s'épuiser. Et dans le cadre justement d'alimenter la caisse de grève, on réalise des soirées de soutien. Donc ça se passe dans le 13e, devant le siège du SAMU social de Paris. Et le 15 juillet, il y a des personnes en rue qui viennent à la soirée de soutien, et en fait, qui décident de s'installer. Enfin, c'est pas une grosse surprise, hein, ça a été organisé, personne ne s'en est caché. Si bien que du coup, il y a un campement qui s'installe devant le siège du SAMU social de Paris. Donc le premier recensement, deux jours après, c'était 170 personnes, je crois, de mémoire, et au plus fort de l'occupation, on est monté à 450 personnes. Donc là, la direction, elle rigole moins et s'y attend surtout pas, en fait, que des personnes qui ont été finalement déboutées du 115 se pointent devant l'institution et disent « Nous, on veut des places, en fait. »
Mais ils ont nulle part où dormir en même temps, donc
ouais, bien sûr,
autant dormir
bien
dans les années, quoi. Sûr.
Donc du coup, bah, finalement, c'est ce que nous, on appelle la convergence des luttes. Et bon, stratégiquement, la direction, elle essaye de pas mal désinguer l'occupation en disant que ça nous empêcherait de bosser, enfin, ça empêcherait les non-grévistes de bosser, pardon. Et ça prend pas, parce qu'il y a un vrai soutien des salariés qui n'étaient pas en grève et qui apportent des fringues, de la nourriture pour les familles, des soutiens aussi pas mal extérieurs. Du coup, ça commence à prendre de l'ampleur et ça gêne, c'est un vrai frein. La direction dit que c'est un vrai frein, qu'on n'arrivera pas à avancer sur un protocole de sortie de grève. Et du coup, bah, les grévistes, on reste solidaires. On dit on sera solidaires de l'occupation. L'occupation, finalement, c'est les personnes qui sont solidaires de nous. Du coup, on s'est découvert en fait avec des camarades de lutte. Donc c'était assez émouvant. Ça permettait justement, notamment aux collègues du 115, de rencontrer les personnes qu'elles maltraitaient malgré elles. Avec les consignes de la direction et de s'expliquer sur tout ça. Il y avait énormément d'enfants, en fait. Donc, il y a eu différentes étapes. Ça. Le sous-préfet, il s'est pointé pour proposer des solutions, comme il disait, sauf que les solutions, c'était que des SAS en province, donc des structures temporaires.
On éloigne la misère, quoi.
Voilà, on déplace la misère, et puis même, en fait, c'est... Enfin, il y a des personnes à qui on proposait d'aller sur Marseille, par exemple, alors qu'elles ont entamé toute leur démarche sur Paris, en fait. Donc bah, le préfet, il a été raccompagné par les familles dehors, il l'a pas très bien vécu. Et en fait, voilà, après, il y a une sorte d'instrumentalisation dans la communication, la préfecture de police de Paris, qui ne tient pas trop, parce qu'en fin de compte, ils accusent une association qui était venue en soutien de ces familles-là, qui s'appelle Utopia 56, de soi-disant manipuler les familles. Alors que les familles, en fait, elles faisaient des assemblées générales tous les soirs. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que les personnes qui ont déjà été dans les SAS régionaux déconseillent à toutes les autres d'y aller. Parce qu'on ne fait pas que déplacer la misère, en fait. Toutes les démarches qui ont été entreprises sur Paris, bah, elles repartent à zéro si on va de nouveau en province. Mais ce n'est pas acceptable. Puis bon, on sait que c'est les solutions qui, des fois, conduisent à une autre solution qui est pas acceptable. Par exemple, il y a des familles qui se retrouvent en centre de rétention administrative parce qu'elles n'ont pas les papiers en règle. Donc c'est pas du tout la bonne solution. Donc suite à ça, ça continue. On se retrouve à faire des manifs devant la DRIL, qui est un des financeurs du SAMU social de Paris, donc les familles et les grévistes. Et
qui finance d'ailleurs ? Il y a qui ? C'est l'État ?
C'est l'État essentiellement, 92% c'est l'État. Ouais. Donc la DRIL refuse de répondre. Donc,
c'est quoi la DRIL ?
La DRIL, c'est un peu c'est le représentant de l'État, en fait.
Ok.
Voilà. J'ai fait un résumé rapide. Donc le SAMU social se retrouve hyper embêté. La communication commence à prendre de l'importance. Donc ça se sait, ça dérange. Et puis ça commence à s'installer sur la durée. Donc on va retenir des choses positives. En fait, les personnes, comme tu disais David, c'est les personnes sans solution qui sont à la rue. Donc devant le SAMU social, en fait, il y a une vraie organisation. Il y a tous les jours des grévistes qui s'assurent d'être présents H24. On voit des mômes qui se mettent à jouer ensemble, qu'ils n'avaient peut-être pas fait depuis longtemps. On apporte un cadre sécurisant. Certes, pas acceptable. Hein. Les personnes, elles campent devant. On arrive à négocier avec le propriétaire du bâtiment, un bailleur public, qu'elles occupent des parties qui sont pas dédiées à l'hébergement, mais en
intempéries,
voilà. C'est pas acceptable, mais pour autant, il y a un cadre plus sécurisant que d'être en rue. Et là où ça a été détourné par la préfecture de police, parce qu'en fait, il y a eu une évacuation, c'est que dans son arrêté, le préfet de police dit qu'il y aurait des enfants sans surveillance qui seraient retrouvés dans la rue, une rue très passante. Alors du coup, c'est complètement faux, il n'y a pas... Les enfants, ils étaient surveillés et la rue, elle n'est pas passante. Ces infos-là, il le tient du SAMU social de Paris, de la direction, qui s'est étonné que ça soit repris contre
et les
pour utiliser, pour justifier l'évacuation, ce qui est complètement faux. Donc, l'évacuation, normalement, vu que c'est un terrain privé, l'évacuation, elle aurait pu être demandée que par le bailleur. Et le bailleur, en fait, il s'y est toujours refusé, malgré l'invitation de la préfecture de police à différentes reprises, il s'y est toujours refusé. Il avait mis en place quelques trucs, c'était certains satisfaisants, le bailleur avait fait en sorte qu'il y ait une douche, pour 450 personnes, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Et voilà. Et il a assumé sa position en refusant de demander l'évacuation. Le préfet de police est passé en force, en utilisant en revanche les arguments du SAMU social, on sait pas à quel titre ils ont été donnés ça, et en prétextant que c'était un danger, et voilà. Donc l'évacuation, on demande aux familles, aux personnes de quitter les lieux, et le 13 août, il y a l'évacuation qui se met en place.
Payer les cafés.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient les Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile. À ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient, je veux être utile à vivre et à chanter. La, 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 les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus. Même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à chanter. Chiliens, pas ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne, on voudrait.
ciel et des armées.
Et alors maintenant, alors, le, tu te fais déchirer un t-shirt. Non,
je ne suis pas sûr que ce soit le sujet le plus passionnant, mais en fait, ouais, j'en étais dans la chronologie au moment de l'évacuation, c'est-à-dire le 13 août. Donc en fait, il y a une partie du campement qui s'était vidée. Il y a pas mal de personnes qui sont parties d'elles-mêmes en se disant « c'est pour nous reproposer des solutions en province, on va pas prendre le risque. » Donc il y a une partie du campement qui commence à se vider dès la veille.
Et qui part tout dans la rue, quoi.
Qui se retrouve du coup en rue, dans des conditions moins sécurisantes que là où ils étaient. Hein. C'était quand même en rue, hein. C'était pas un hébergement, le campement. Puis d'autres personnes qui partent au moment où les forces de l'ordre arrivent. Donc il y a un déploiement des forces de l'ordre qui est incroyable.
Là pour scinder du pognon par contre.
Ouais, moi du coup j'arrive même à rejoindre les camarades de justesse parce qu'en fait ils ont bloqué quasiment tout de suite après que je sois arrivé, ils ont bloqué les gens donc ils ont bloqué la rue, ils ont bloqué les gens, tous les soutiens, donc on se retrouve avec une partie de seulement des soutiens présents sur place.
Vous les avez encerclés.
Des familles, en fait. Ils se sont presque retrouvés menacés malgré eux, mais en fait nous on n'a pas été violents. On n'a pas fait.
Contrairement à eux.
Voilà. Et donc, on attend le moment de l'évacuation. Les familles qui avaient discuté, en fait, elles sont assez au clair. Les familles qui restent là, elles sont dans l'attente d'une proposition. Ici, si ça leur convient pas, elles sont prévues de s'en aller sans s'y opposer, en fait. Et du coup, on part sur un truc qui est censé être très pacifique. Et vite fait, en fait, le sous-préfet arrive avec une représentante de la préfecture. On arrive à se mettre d'accord sur le principe qu'on laisse rentrer les agents de la préfecture pour faire les propositions et que les forces de l'ordre n'ont pas à intervenir, ce qui est accepté par le sous-préfet. Et il s'engage aussi à ce qu'il n'y ait pas de contrôle d'identité. Ça, là-dessus, on n'a pas eu de retour du contraire. À peine le sous-préfet est rentré et les agents de la préfecture, en fait, il y a une armada de CRS et de gendarmes qui se pointent et qui veulent rentrer. Du coup, naturellement, les quelques personnes qui étaient devant, on bloque l'entrée, et on attend que le sous-préfet revienne pour s'expliquer, et en fait, on n'a pas le temps, on se fait dégager par la force, comme dit notre chère directrice, sauf que là, l'usage de la force, il a été un peu violent quand même, il y a une personne qui s'est vu ses vêtements déchirés, on va dire ça comme ça, et une autre personne juste à côté, un camarade de la CGT, qui s'est fait étrangler, alors que c'est une prise qui est interdite. Ça a été documenté, il y a des vidéos. Et c'est pas d'une violence comme on peut voir non plus dans les manifs. Juste pour rappel, il y a plein de nourrissons, il y a plein d'enfants. Ça aurait été complètement déconnant d'arriver et de sortir les matraques et les gazeuses. Donc ça n'a pas été fait.
Puis vous n'étiez pas violent, vous.
Donc non.
Il n'y avait aucune excuse.
C'était pas.
Rien de justifier ça.
Ouais. On n'a pas prévu un tel scénario, en plus, hein, justement, par rapport à la composition du campement. Mais en revanche, là où ça a été violent, c'est qu'il y a des personnes qui ont été traumatisées de ce qu'elles ont vu, en fait. Elles ont vu des gens qui les accompagnent depuis un mois, en gros, se faire défoncer devant eux, quoi. Donc, c'est pas très cool. Pour finalement nous laisser revenir 5 minutes après, sauf que du coup, il y a des flics partout, il y a des mômes qui ont peur, qui se cachent. Ça n'a pas de sens. On retrouve des flics dans les locaux syndicaux. Ils sont montés sur le toit. On ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est complètement disproportionné. Donc, il y a des propositions qui ont été faites par rapport à cette évacuation. Donc, il y a quand même un point positif. J'essaie de retrouver les chiffres en même temps que je vous parle. J'espère qu'ils sont fiables, parce que c'est le chiffre de la préfecture de police. Il y a 62 adultes qui auraient été mis à l'abri. Donc, 55 personnes en Île-de-France.
Sur combien ?
Bon, je pense que là, à ce moment-là, il reste 200 personnes sur le campement. Il a été vidé de moitié. Et 7 personnes dans les SAS régionaux, en fait. Et en plus, 52 personnes qui ont été prises en charge par le, ce qu'on appelle le CIO, en gros, par le SAMU social, parce qu'elles remplissaient des conditions. Je ne sais pas si c'est l'initiative du SAMU social ou si c'est l'État qui a dit qu'il faut en prendre 50.
Ils étaient enceintes de 8 mois, c'est pour ça ?
Franchement, je ne pourrais pas dire, je n'ai pas plus d'infos, mais il y a grosso modo 110, je ferai presque le jeu de mots, 115 personnes qui ont été prises en charge à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui se passe suite à ça? Ben, en fait, le soir même, les personnes qui sont parties du campement ou qui n'ont pas eu de possibilités, hein, j'imagine là qui sont restées à qui on n'a rien proposé, se retrouvent devant la mairie de Paris-Centre. Donc, ils n'étaient pas prêts. Donc, finalement, ben, comme ça avait été annoncé, ben, nous, en fait, on restera solidaires. Les grévistes, on reste solidaires des familles, on continue à soutenir ce mouvement-là. Donc pendant, elles sont restées à peu près une semaine en fait devant la mairie. Il faut savoir qu'à moins de 100 mètres, il y a un espace parisien qui est régulièrement utilisé pour mettre les personnes à l'abri. Et bon, voilà, la mairie refuse de l'ouvrir. Et elle dit c'est pas mon rôle, c'est l'État. Alors c'est vrai. Et effectivement, la mairie, elle héberge déjà pas mal de gens. Elle devrait pas avoir à le faire. C'est la compétence de l'État. Sauf que bon, bah voilà, au bout d'une semaine, la mairie craque et décide de finalement héberger les 250 personnes qui sont présentes à ce moment-là. Enfin, héberger. Mettre à l'abri, on va dire, c'est plus correct, en ouvrant deux gymnases parisiens. Et avec l'engagement de trouver une solution pérenne à l'avenir, en fait. Donc, elles ne sortent pas tant qu'on n'a pas trouvé autre chose. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Dans l'ensemble, en fait, il y a pas plus de 100 personnes dans un premier temps qui ont eu des solutions. Puis après, 250. On a fait les deux tiers de personnes qui étaient en rue, qui sont venues manifester. Donc, du coup, c'est une victoire pour les familles qui a été arrachée, en fait. Donc, du coup, les familles sont la plupart avec des solutions, en fait. Les personnes qui n'étaient pas présentes au moment de la proposition, elles sont prises en charge par des hébergements citoyens. Puis ben là, la mairie est censée se retourner contre l'État pour demander une indemnisation. Donc, je ne sais pas si elle va le faire. Ça a été fait dans d'autres régions. Il y a eu des avancées. Effectivement, souvent, c'est l'État qui est en carence, en fait.
Pour ça, la gymnase, là, maintenant, vu que l'école va reprendre, logiquement, ils vont les dégager des gymnases.
Non. Là, l'engagement, c'est que tant qu'une solution pérenne n'est pas trouvée,
il n'y a pas de gymnase,
en fait. Donc, c'est pas satisfaisant non plus, mais voilà, ça permet quand même aux gamins de reprendre une scolarité. Ça permet un certain apaisement. Du coup, la grève a quand même réussi à prendre fin avant la... Je me suis perdu dans la chronologie, en fait. Là, les familles qui ont été hébergées, on venait de sortir de la grève quelques jours avant, en fait. On a réussi à signer un protocole. Alors, ça n'a pas été évident. C'est épuisant. Il faut juste retenir que, en fait, ça a duré 57 jours, cette grève. Donc, il y a pas mal d'engagement plutôt que de solutions concrètes dans l'immédiat. Enfin, en tout cas, tout ce qui est financier. La direction ne peut pas prendre les décisions seule. C'est les conseils d'administration, ça prend du temps. Donc il y a un réel engagement pour tout ce qui est financier. On verra si on a eu raison ou tort d'accepter un tel compromis. Après, il y a déjà certaines garanties, comme la mise en place d'un inspecteur sécurité, santé au travail. C'est l'équivalent d'un inspecteur du travail dans le privé. Donc il va être mis à disposition. Il n'y aura plus de réorganisation importante sans étude d'impact au préalable. Il y a des avancées spécifiques pour les collègues du 115 et puis pour tous les salariés, quoi. En gros, il y a un baromètre social. Alors, le terme, on n'était pas forcément d'accord. Ça dépend qui prend la température. Mais en gros, on va étudier un peu, on va pouvoir évaluer le mode de management que l'on a. Voir s'il est efficace ou pas.
Et pour toi, c'est des belles paroles et des beaux écrits ou ça va vraiment faire quelque chose?
Alors, non, bien sûr que non. Enfin, moi, c'est mon avis. Il va falloir être super vigilant. Mais non, en fait, on a gagné plein de trucs. Et il y a des collègues ou des gens même de l'extérieur qui ne comprennent pas. Déjà, on a gagné en dignité, en fait. On ne se laisse pas avoir. On a découvert... on a participé à une convergence des luttes qui était juste pas possible. On a fait déjà pas mal de choses correctes, en fait, je trouve. Et puis, ben voilà, je suis pas complètement pessimiste. Je pense qu'effectivement, il y a eu un avant et un après. Donc, on verra. Bien sûr, ça va être à suivre de près. Est-ce que les promesses vont être respectées ou pas? Il y a pas mal de trucs qui vont pas en termes de sécurité ou autre. Il y a pas mal d'engagements qui sont pas tenus dès le départ, en fait. Enfin, de trucs législatifs qui ne sont pas respectés. Donc, on va voir. Je pense que ça va évoluer. Au pire, je viendrai vous tenir au courant. Si
ouais, tu verras.
Alors, pour celles et ceux qui veulent plus de précisions sur l'ensemble des avancées, il y a l'Instagram de la CGT du Samu Social de Paris. Donc, vous pouvez voir un peu plus en détail ce qu'il y a. Après, ça a été énormément documenté hein, dans la presse, ce conflit.
Pas plus que ça. Hein. Franchement, je regarde au taf, moi, je vais le dire. Hein. Yahoo Actu, ouais, j'ai vu deux passages du Samu.
Même sur BFM, ils en ont parlé, mais ça a été documenté, pas dans tous les médias, pas forcément dans les médias.
C'est News, ils en ont parlé ou pas, c'est pas
Je sais pas, je regarde pas. A priori, non, si tu fais une recherche, il y a vraiment plein de médias qui en ont parlé, et pas forcément que des médias de gauche. Et ça a pris du temps, en fait, hein, quand même. C'est vrai que c'est frustrant au début, on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas? Il y a des gens qui sont en train de crever de chaud, là, devant, ouais. On est en pleine canicule, pour rappel.
Eh bien, j'ai une question.
Vas-y, je t'en prie.
C'est un conflit qu'a mené essentiellement la CGT, en tout cas les négociations étaient menées par la CGT. Toi, tu es à la CNT.
Ouais.
Et comment tu t'es inscrit là-dedans, en compte tenu du fait que il ne s'agit pas de dire que la CNT a été dans le conflit engagé. Mais bon...
Si, il s'est engagé.
Oui, mais c'est ça. Ce que ça veut dire, c'est ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin d'être majoritaire pour être dans un conflit.
Non, bien sûr. Moi, je me suis engagé naturellement dans la lutte en tant que salarié. Et bon, du coup, tout le monde sait que je suis à CNT, quasiment personne ne l'ignore dans l'entreprise. Du coup, effectivement, je me suis pointé avec mon drapeau, tout ça. Quelques camarades qui nous ont rejoints sur des événements ponctuellement. Après, voilà, effectivement, comme tu dis, ça a été mené quasiment essentiellement par la CGT du Samu Social de Paris, alors qu'il y a aussi deux autres syndicats qui ont participé aux élections, qui ont eu des mandats, qui ont été très peu présentes.
Lesquels ?
Sud et CFDT.
CFDT, surprenant, tiens.
Ouais, alors bref, c'est comme ça. Hein. Écoute, c'est l'été, peut-être ils étaient en vacances.
Voilà. Sûrement,
peut-être que dans je peux pas me permettre. Enfin, voilà, clairement, il faut reconnaître que ça a été mené essentiellement par la CGT. Pareil, hein, la caisse de grève qui a priori pour l'instant permet de compenser une partie des pertes, qui est toujours ouverte, hein, vous pouvez retrouver sur internet assez facilement. Il y a eu pas mal de dons faits par des particuliers ou autres, et aussi pour pas mal de syndicats, et pour la plupart les syndicats de la CGT. Après, la CGT, c'est un très gros syndicat avec plein... Enfin, c'est une très grosse confédération avec plein de syndicats. Ça reste juste normal. Mais voilà, ça a été possible. Enfin, cette caisse de grève-là a été possible parce qu'il y a des soirées de soutien, parce qu'il y a des dons, parce qu'il y a une communication. Du coup, j'en profite. Hein, elle n'est pas fermée. Bon, là, actuellement, on ne sait pas si elle est suffisamment alimentée pour compenser une partie des pertes liées à la grève. Parce que de toute façon, on est en décalage sur nos pays. Donc vous pouvez les donner ou autre. Peut-être que d'autres événements auront lieu. On verra ça.
Préviens-nous.
Fumante les bons jours, promise à tout, pourvu qu'elle vienne, remise à temps pourvu qu'on court, patiente et pleine d'importance, attendue comme un personnage, promis comme une délivrance, elle a le charme qui mutation, elle apparaît, une autre fois plus spontanée, s'en va, revient, puis disparaît, tout ça dans la même journée. En mutation, elle apparaît, une autre fois plus spontanée, s'en va, revient, puis disparaît, tout ça dans la même journée. Elle fera ton emploi du temps. Si jamais elle
te prend pour cible. Elle te dirige comme un tyran. Si tu doutes de son pouvoir, respire tout autour de toi. Si tu sens, c'est déjà trop tard, la merde t'a pris dans ses bras. En mutation, elle apparaît, une autre fois plus spontanée, s'en va, revient, puis disparaît, tout ça dans la même journée. En mutation, elle apparaît, une autre fois plus spontanée, s'en va, revient, puis disparaît, tout ça dans la même journée. Elle apparaît, une autre fois plus spontanée, s'en va, revient, puis disparaît, tout ça dans la même journée. En mutation, elle apparaît, une autre fois plus spontanée, s'en va, revient, puis disparaît, tout ça dans la même journée.
Radio Libertaire, 89.4, La Voix sans maître. Vous écoutez Micro-ondes 94, l'émission de la CNT du Val-de-Marne. Alors, en remerciant Christophe pour cette information sur la grève du SAMU social, dont on rappelle qu'elle a duré 57 jours, c'est pas rien, et 57 jours en été. Hein. Eh bien, nous allons maintenant passer à la célébration, aux célébrations, aux commémorations de la Révolution espagnole de 1936, les 90 ans de la Révolution espagnole de 1936. Alors pour nous, pour le syndicat EDPIX 94 de la CNT, ça a commencé à Limay, le 28 juin.
Oui, dans les Yvelines. Donc nous étions invités à participer à cette commémoration pour inaugurer la place de Mujeres Libres en plein milieu de Limay, avec une manifestation qui s'est déroulée dans les rues. Il pleuvait plus ou moins, c'était un peu compliqué, mais il y a eu aussi un film, Hommage à la Catalogne. Il y a eu quand même pas mal de personnes qui étaient là. Ils étaient un peu déçus sur place, parce que c'était la fête de Limay. Et donc, les gens ont été dispersés plus ou moins dans Limay. Mais il y a eu de bons débats, des débats très intéressants, sur tous les plans. Hein. C'était vraiment très bien organisé, très sympa. On a fait une bouffe ensemble. Tout le monde arrivait, c'était un peu l'auberge espagnole. Tout le monde est arrivé avec de la nourriture et on a partagé.
Voilà. L'inauguration de la place Mujeres Libres, femmes libres, c'était symbolique, non?
Oui,
c'est
oui,
pas resté. Bon, rassure-moi.
Mais il y a un journal qui en a fait référence.
Hein. Oui. On a vu. C'est toujours pareil. On a l'impression que parce que ça ne se déroule pas à Paris, c'est secondaire. C'est souvent pas vrai. Parce que la presse locale, les presses locales, surtout dans des villes moyennes ou petites, eh bien, a si peu de choses à se mettre sous la dent que quand il y a un événement, eh bien, il le rapporte.
Petite question, est-ce qu'il y avait le groupe FLML de la CNT qui était là ?
Non.
Non ?
Non. Je représentais le groupe de travail féministe de la CNT.
D'accord, mais il n'y avait pas le groupe FLML de la CNT qui était là.
Alors, okay. Après le Limay, le 28 juin, on va évoquer, parce que des camarades y étaient présents, une célébration d'une toute autre ampleur, à Berlin cette fois, où s'est déroulée une commémoration qui a duré 3 semaines, n'est-ce pas ?
Oui, donc on est passé à Berlin avec Blanche et on est resté plus longtemps que prévu parce qu'on y était allé pour des histoires d'archives, j'en parlerai brièvement après. Mais on a découvert qu'il y a un camarade qui a fait un festival de cinéma dans un cinéma alternatif dans une ancienne boulangerie industrielle qui s'appelle la Brotfabrik. Et donc c'était sous le thème « A las barricadas », guerre et révolution en Espagne de 36 à 39, série de films pour le 90e anniversaire du 9 au 31 juillet 2026, donc 3 semaines, avec 23 films. Et pour les grands films, ben, pour que les gens qui ne pouvaient pas un jour, ils les avaient reprogrammés à plusieurs occasions. Et pour les films les plus importants, il y avait des débats avec les caméramans, les metteurs en scène, des témoins du tournage. Alors, il y a des choses qu'on connaissait, Landon Freedom, à qui sonne le glas, des fictions, des documentaires de la RDA, de la RFA, toutes les fictions de la CNT qui ont été produites à l'époque. Aurora de Esperanza, Barrios Bajos, et ces choses-là. Et en même temps, y a eu deux pépites, on va dire, de découvertes. Un film qui vient de sortir et qu'on a traduit, on a fait le sous-titrage d'un camarade de la allemand de Leipzig qui se trouvait déjà en Espagne depuis 34. Il a d'abord travaillé dans l'illégalité sous les nazis et puis il a dû partir. mais il assiste à la préparation du contre-coup, contre-putsch, on va dire, sur les barricades de Barcelone. Il adhère à la CNT, il part sur le front d'Aragon. Il a un parcours pas possible parce qu'il est ensuite emprisonné plusieurs fois. Il s'échappe et réemprisonné par les staliniens. Il assiste au massacre du Poum. Il part dans le flot des réfugiés en France, où il est d'abord interné à Argelès-sur-Mer, comme tout le monde, et à Gurs. Et puis, ensuite, quand l'Allemagne attaque la France, en tant qu'étranger ennemi, il se retrouve à nouveau à Gurs et à la briqueterie des Milles, d'où il s'échappe. En essayant de franchir la ligne de démarcation entre la France, qui n'était pas encore occupée à cette époque-là, il se fait choper par la police et puis il est directement transféré au SS. Et puis il se prend 2 ans et demi, il s'en sort assez bien, il se prend 2 ans et demi seulement. Et bon, il raconte. C'est un film qui est un peu ma Catalogne de Orwell, mais en film, et pas raconté par un intellectuel britannique, mais par un ouvrier qualifié, mais un ouvrier qui a les codes du mouvement. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le traduire et qu'on va le diffuser dès qu'on aura réinvesti les locaux au Vignoles et qu'on aura un moment quand le faire. En même temps, il y a eu une exposition énorme, La tragédie de la liberté, Révolution et guerre en Espagne, 36-39, et une exposition qui est encore maintenant à la Maison de la démocratie en septembre. Elle va avoir lieu de nouveau à Berlin. Alors, c'est intéressant parce que c'est aussi en collaboration avec les gens auxquels on avait amené des archives et qui ont des archives et une bibliothèque de prêts anarchistes. dans un ancien squat, maintenant légalisé, squat qui date des années 89, pendant la Révolution, quand la RDA s'écroule, et que, en fait, c'est une histoire assez intéressante, c'est en plein centre-ville, la Friedrichstrasse, donc à centre de Berlin-Est, quand le nouveau forum, les manifestants occupent le siège du Parti communiste est-allemand, occupent le siège de la Stasi. Mais bon, l'immeuble de la Stasi, c'est en banlieue, c'est pas très intéressant, mais ce qui est plus embêtant pour la spéculation immobilière ensuite dans l'Allemagne unifié, c'est que bon, c'est quand même dérangeant ce squat et on leur propose un autre endroit, mais qui est juste à côté, quoi. C'est deux numéros à côté, un autre grand immeuble où ils sont. Dans les débats autour des films, ce qui a été important pour le public de Berlin-Est et de l'Allemagne de l'Est, c'était la position des anarcho-syndicalistes qui, en partie, se sont fait, ont eu la balle dans la nuque, ont été mis dans les camps soviétiques qui ont repris, on dirait recycler les camps nazis des gens qui ont fini par rentrer dans le parti tout en étant sur une ligne anti-stalinienne, mais qui, surtout après le 17 juin et le 20e congrès du Parti communiste où Khrushchev est un peu revenu sur les histoires de Staline, avaient espoir qu'on pouvait quand même transformer les choses. Et ça, pour eux, c'était encore un débat qui était très important. Après, il y a eu le débat sur le film de Enzensberger. Peut-être que Blanche va en parler parce qu'elle était, elle, dans le débat et c'est à elle qu'on a posé beaucoup de questions. On voit, parce qu'en fait, ce film a été tourné, les témoins d'époque, c'est à l'imprimerie des Gondoles, l'imprimerie de l'exil de la CNT. C'était un peu à ce titre-là qu'on était sur le podium.
Ben disons que ils ont beaucoup demandé si les femmes étaient actives dans la révolution et c'est vrai que ça n'est pas j'ai parlé du film Libertarias qui existe, qui était dans le festival. Il y a plusieurs fois aussi dans l'autre film où il en parle énormément,
Karl Braun,
hein, qui en parle énormément, en disant qu'elles étaient plus, elles étaient même plus courageuses que les mecs à côté, qui avaient du mal. Hein.
Il a dit plus couillu.
Plus couillu, ah d'accord. Waouh.
Que lui, il avait les chochottes, alors que les nanas, elles y allaient.
Et que la plupart du temps, elles étaient au front également, sauf pendant la militarisation qui a fait basculer un peu les choses. Mais au niveau des milices et tout, c'était très facile. Il y a eu aussi le film sur Economia Collectiva, qui est super important. Il y a un autre film, Economia Collectiva, qui est un film de 2014, dans lequel des personnes inconnues au mouvement parlent des collectivités et sont très, très optimistes vis-à-vis des collectivités, que c'était des moments clés, c'était des moments forts de la révolution et qu'ils étaient très contents de toute cette période, eux-mêmes en parlant ou parce qu'ils ont entendu parler, pas seulement parce que eux ils étaient directement en lien. Mais
on est maintenant dans la période des non plus des témoins,
voilà,
mais des
ça.
Témoins de témoins.
De témoins,
c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été témoins et où il y a de nouvelles générations qui témoignent des gens qui ont été témoins sans avoir été directement. C'est une juste forme de transmission de la mémoire.
Pour ajout pour le débat qu'il y a eu dans la discussion, alors c'était une petite salle avec 60 places, mais rempli pour tous les films. Ouais. Et dans ce débat pour la collectivité, la collectivisation, les gens étaient, c'était un public jeune, très très étonné, et donc j'en ai profité pour dire, mais bon, c'est des choses qui se savent depuis longtemps, il y a le français Gaston Leval qui a écrit là-dessus, et ça a été traduit en allemand, et il y a à l'époque même un anarcho-syndicaliste allemand assez important, Augustin Souchy, parce qu'il était au secrétariat international, et puis il est en Espagne, il est un peu au bureau d'information de la CNT pour l'information internationale. Et lui, il publie à l'époque même déjà sur l'Aragon les collectivités agraires. Et il en a refait un livre plus grand. Et d'ailleurs, dans le Monde diplomatique du mois d'août, donc le dernier qui est sorti, on découvre les Amériques. Donc dans les critiques des livres, à la page 24, on peut trouver « Parmi les paysans d'Aragon, carnet de voyage des collectivisations de 1936 à 1937, Augustin Souchy, Smolny, Toulouse 2026, 10 euros. » Et bon, je ne lis pas toute la critique, mais les choses étaient connues. Le film est sans doute la meilleure chose que j'ai jamais vue sur les collectivités.
Exactement.
Aimé pourra en parler aussi davantage, mais ça... C'est réduit à la Catalogne. Et ce que je voulais dire dans ma contribution, c'est que, attention, il y a eu aussi l'Aragon, il y a eu les Asturies, il n'y a pas que les grandes villes, quoi.
Oui, il est très complet, ce film.
Qu'est-ce que t'entends par inconnu, Blanche? Inconnu, c'est-à-dire c'était des paysans, des ouvriers, des gens.
Des personnes que, enfin.
Du mouvement qui était sénétiste ou qui n'était pas.
Oui, des anonymes.
Qui n'ont pas de nom.
Parce qu'il y a certains. Les grands militants.
Oui, voilà, militants, non. C'est des militants.
Militants de base, quoi. C'est monsieur et madame tout le monde sans connaît, enfin, qu'on ne connaît pas du tout, qui ne sont pas connus du mouvement et qui. Témoigne, et avec c'est très complet, c'est vraiment tous les éléments y sont, quoi.
C'est les militants qui sont les moins en vue, mais qui sont tellement essentiels et si importants pour la survie du mouvement.
C'est un peu comme Karl Braun, hein, qu'on connaissait pas du tout, enfin bon, c'est une découverte. C'est drôlement bien. Enfin, je veux dire, c'est super important de connaître des gens.
Ceux qui l'ont vécu, quoi, en fait.
Et quelque part, ça nous confirme dans ce qu'on savait déjà. Et il y a d'autres personnes qui témoignent de ça, qui ne sont pas forcément autour de nous, mais qui témoignent de cet aspect, de cette collectivisation qui était énorme et qui avait différentes formes et qui était différent, de différentes façons de faire. Et c'est génial.
Amado voulait intervenir pour les tramways qui flambent.
Mais ça fait partie de cette histoire aussi, parce que dans le témoignage de cet ouvrier de Leipzig, cet anarcho-syndicaliste de Leipzig qui fuit Hitler et qui se retrouve à Barcelone en 1935, il assiste à cette formidable, parce que ça devient mythique après, grève des tramways, où il y a, les tramways flambent dans Barcelone. Et il explique, il dit, moi j'étais à la CNT, mais la CNT n'a jamais donné la consigne ou même le truc d'incendier les tramways. Simplement, les tramways brûlaient.
C'est de l'autocombustion.
Personne savait qui le faisait, etc. Sauf que toute la population de Barcelone savait pertinemment que c'était la CNT qui brûlait les tramways, quoi. Parce qu'il n'était pas possible que des ouvriers, parce que c'était la cause, que des ouvriers aient été licenciés parce qu'ils étaient à la CNT.
Il y a prescription, on peut le dire maintenant.
Voilà. Et donc, bon... Mais tu as parlé d'une tu as parlé d'une exposition, mais il y avait quoi dans cette exposition?
En fait, la gauche allemande, c'est pas la française, parce que je ne nous vois pas faire un truc, la CNT.
Il y a une gauche en France.
Le parti communiste, et appelle ça comme tu veux, le mouvement social. Je ne nous vois pas faire un truc ensemble avec des groupes trotskistes, le Parti communiste et les libertaires. Et donc ici, il y a des contributions sur la guerre d'Espagne qu'ils ont fait ensemble, chacun apportant Bon, c'est quand même essentiellement anti-stalinien parce que les communistes sont revenus sur certaines choses, mais voilà, c'est ça qui était intéressant avec des documents, ben, entre autres un artiste italien que je connaissais pas du tout, Gian Andante, qui bon, je sais pas si on a encore le temps, mais qui lui, italien, il n'est pas encore majeur, hein, il est déjà architecte, mais il fait aussi du graphisme. Il vit le Biennio Rosso, le Biennio Bianco, c'est-à-dire les mouvements d'occupation d'usines dans les années 20 et puis ensuite le contre-coup fasciste. Et donc, comme artiste avec les futuristes fascistes, bon, ça marche plus, il se réfugie en France. Et il est un des premiers à s'engager, parce qu'il n'y avait pas autre chose, parce qu'il était plutôt de tendance anarchiste, les Brigades internationales, le premier contingent italien qui part à Barcelone à partir du moment où ça pète. Et il devient pour les Brigades internationales celui qui fait la propagande, les affiches à l'intention des troupes de l'armée espagnole républicaine, mais aussi, un truc que je connaissais pas, des tracts qu'il lançait, sans doute par avion, dans les lignes des Italiens et des Allemands du côté franquiste, et aussi de la propagande en espagnol du côté franquiste, pour les appeler à rejoindre la République. Et ce type a demandé la nationalité espagnole à cette époque où il œuvre là, et le gouvernement républicain, sur pression du PSUC, et on suppose que c'est les Russes qui sont derrière, refusent. Et on sait que le Parti communiste avait fait, alors tout en l'engageant dans les interbrigades, avait fait un rapport sur lui, qu'il était trop proche des milieux anarchistes et donc pas un candidat sûr, et donc il n'a pas eu sa nationalité républicaine, qu'il n'aurait pas eu très longtemps d'ailleurs, hein.
ça allait être
bon, on découvre plein de choses.
Ouais. Alors parmi la propagande que faisaient les antifascistes italiens qui étaient dans le camp de la République, eh bien, il y avait une propagande par haut-parleurs, d'énormes haut-parleurs, et ils s'adressaient en italien aux troupes fascistes italiennes qui combattaient avec Franco. Et c'est vrai que quand tu es comme ça un corps expéditionnaire étranger, ça doit faire une drôle d'impression de se faire interpeller dans ta langue par par l'adversaire.
Et ça marchait au moins ?
On n'en sait rien.
C'est comme, tu peux lire aussi chez Orwell, mais ils s'invectivaient plutôt, les Espagnols,
oui,
entre eux.
Mais ça,
ils parlent aussi des trucs des haut-parleurs, ça, ouais. Je me rappelle.
Just because we are human,
Bon, c'était le groupe The X, enregistrement de 1976. Si vous n'avez pas reconnu, c'était No Passaran, They Shall Not Pass. voilà.
Et c'est un album très peu connu. Hein, c'est admirablement illustré avec deux mini-CD, quatre titres. Le titre, c'est 1936, la Révolution espagnole, hein, en anglais.
Yes, j'affirme.
Bon, en ce moment même, on profite de l'occasion, en ce moment même, il y a un rassemblement, se produit un rassemblement contre l'extradition de Gino. C'est une histoire qui commence à traîner. Ce rassemblement a lieu aujourd'hui même, depuis 14 heures, place Stalingrad, métro Jean Jaurès, et c'est un rassemblement, ce sont des séries d'actions dans laquelle est impliquée la CNT. Alors, nous sommes sur Radio Libertaire, micro-ondes 94, l'émission de la CNT du Val-de-Marne. Et on va terminer cette émission en parlant de deux sujets. Le premier, c'est le 24 août 1944, puisque le 24 août, c'était lundi dernier. Et donc, avec le changement de maire à Paris, on pouvait se demander ce qu'il adviendrait de la célébration de l'entrée du détachement de la 2e DB, la 9, dans Paris, le soir du 24 août 1944. Eh bien, rien n'a changé, ou plutôt, si, ça a changé, parce que maintenant, ça devient une forme de ralliement. Alors, il y avait le maire, Grégoire, il y avait les mêmes autorités que d'habitude, mais en plus, il y avait cette fois un sous-ministre macroniste qui est venu assister. Ah, parce que, évidemment, hein,
il y a besoin de se cultiver.
Il n'y a rien. Dès qu'un événement commence à prendre une certaine importance, et il en prend une certaine, puisque les agences de presse espagnoles, la télé espagnole l'a diffusé, ben donc il faut être là. Alors là, il était un petit peu marginalisé parce qu'il était avec la mairie socialiste, et puis deux ministres, deux sous-ministres aussi, secrétaires d'État espagnols, qui étaient présents et qui, eux aussi, essayent de se raccrocher avec leur drapeau, qui est le drapeau de la monarchie, donc le drapeau de Franco, et alors que il y avait pas mal de monde, il y avait plusieurs centaines de personnes, et il y avait énormément de drapeaux de la République espagnole, et même un drapeau de la CNT. Et donc, ça les met, tous ces gens-là sont un peu gênés
aux entournures,
mais en fait, ça s'est fait. Et donc, comme l'association qui a œuvré pour que cette célébration ait lieu, l'association 24 août 1944, est intervenue. Le secrétaire est intervenu et le secrétaire a dit que oui, non seulement il y avait cette célébration, mais que bientôt il y aurait un centre de mémoire au 33 rue des Vignoles, où il y aurait aussi la CNT, Flamenco en France, etc. etc. Et tout ça devant toutes ces autorités qui, prennent ça avec un grand sourire, mais pas sûr que tout le monde rigole beaucoup.
Hein, on les invitera ou pas
intérieurement. Mais enfin, c'est comme ça.
Est-ce qu'on pourra les inviter? Est-ce que Manu viendra?
Oui, mais il y en a d'ailleurs un,
Quand tu peux pas empêcher un mouvement, tu te mets à la tête. C'est
oui,
ce que faisait le PC à une époque.
C'est connu. Voilà. C'est connu. C'est-à-dire, ils font semblant d'être à l'origine du. Ils sont à l'origine de rien, mais ils prennent le train en marche. Ça s'appelle prendre le train en marche. Mais ce qui est important, c'est que le train avance, parce que effectivement, lié à ça, il y a la réfection du. La restauration, plus exactement même la reconstruction du 33 rue des Vignoles qui touche à sa fin, les travaux sont très avancés, tout a été remonté, etc. Et dans les mois prochains, d'ici la fin de l'année, eh bien, on pourra réintégrer, la CNT pourra réintégrer les locaux du 33 rue des Vignoles, cette fois bien neuf, bien conforme, bien... bien comme il faut.
Mais pour la déco, on n'a qu'à prendre les futurs ministres qui ne seront plus que des ex.
Oui.
Qui vont nous aider, on les recycle.
Voilà.
On les recycle.
Alors, sur le même sujet, en prolongeant ça, le syndicat EDPIX 94 et les syndicats CNT du Val-de-Marne organisent le 3 octobre à la Bourse du Travail de Choisy-le-Roi, dans l'après-midi à 15h30, la projection du film de Frédéric Goldbraun, Hommage à la Catalogne, qui reprend des extraits du livre de George Orwell et illustré par des documents d'époque. Et dans une. Alors que. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'extrême droite et les fascistes avancent beaucoup et très fort. Il n'est peut-être pas inintéressant de répéter et de faire découvrir à certains que ben, le fascisme, ça se combat aussi. Alors, pas forcément par des armes, mais ça se combat. Ce que montre Orwell, eh bien, c'est essentiellement cela.
Et des fois, on gagne.
Et il peut arriver qu'on gagne, même si, parce qu'en Espagne, le coup d'État, s'il y a quelque chose à savoir, c'est que en 1936, les militaires font un coup d'État. Et ce coup d'État, il est vaincu.
Ouais.
Alors après, ça devient une guerre classique avec des aides étrangères. Avec, bon, on a parlé tout à l'heure du corps expéditionnaire italien, c'est pas rien. Et avec la Légion Condor, les Allemands envoient la Légion Condor. Et là, bon, ça devient autre chose. Mais le coup d'État des militaires a été vaincu. Et il n'a pas été vaincu par la République. Il a été vaincu par la classe ouvrière, pour le coup. Ce sont bien les ouvriers qui ont vaincu les militaires. Voilà, cette émission est en train de toucher à sa fin. Et la prochaine, comme on me rappelle, mais on se fait rappeler à l'ordre ici. Mais bon,
non, mais si,
c'est gentil.
Et bon, pourtant, il n'y a pas de chef. Hein. C'est ça qui est marrant.
Micro-ondes 94 de la CNT du Val-de-Marne aura lieu le 29 novembre. Qui est un dimanche, je crois.
Ah oui. Jour du Seigneur.
Voilà.
En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de chef. Le problème, c'est qu'on est tous des chefs.
Ils ont les chefs de nous, c'est déjà pas mal.
Arrêtez donc de voter.
Vous ne pouvez rien, je sais.
Action. Durée. Merci aux camarades de la CNT 94, ici même sur Radio Libertaire 89.4 FM. À 16h57, Radio Libertaire à la voix sans dunimètre de la Fédération anarchiste. Michel Polizzi avec vous jusqu'à 18h30. On va avoir un mélange court aujourd'hui. Peut-être on débordera un petit peu. Je crois qu'il n'y a personne qui vient après. Donc si on a besoin de temps supplémentaire pour un autre morceau, on le prendra. Le numéro de téléphone du studio, le 01 43 71 89 40. On va commencer avec l'anniversaire du jour, enfin un de ceux-là. L'anniversaire du saxophone, du trompettiste Kenny Dorham. On va écouter ici, enregistré en 1955, en public au Café Bohemia à New York City, le 23 novembre 1955. Une composition de Kenny Dorham lui-même, Miner's Holiday, avec le saxophoniste Hank Mobley, Horace Silver, qui lui aussi a un anniversaire cette semaine, Doug Watkins, le bassiste, et Art Blakey, bien sûr avec les Jazz Messengers, Art Blakey à la batterie. On écoute donc ce Miner's Holiday, enregistré, je vous disais, en 1955 au Café Bohemia à New York.
Mm-hmm.